Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreux. Aujourd'hui, mémoire de militants, Jacques Chourquet du Maquis au Maoïsme, 6e partie, du début de la résistance, du chantier de jeunesse au Maquis, 1942-43.
Mon expérience personnelle, elle est toute simple. Je connaissais ce Alphonse Roux, qui était le trésorier de la cellule communiste des cheminots de la gare Saint-Charles. Et un jour, il me demande, carrément en 41, hein, il me dit, est-ce que tu serais d'accord pour adhérer au parti? Je dis, tout à fait. Est-ce que tu serais d'accord pour faire des actions pour le parti? Je dis, tout à fait d'accord. Il me dit, bon, d'accord, je te donne la réponse dans quelques jours. 15 jours ou 3 semaines après, je le rencontre, il me dit, voilà, c'est accepté, on va former un groupe de 3, et la première des choses qu'on va te demander, c'est de nous cacher la bibliothèque de la gare Saint-Charles, je t'expliquais ça tout à l'heure, de nous la cacher, elle est chez moi, il faudrait que tu viennes avec des valises, et tu les remballes, depuis Saint-Marcel. Effectivement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé avec des valises, j'ai emmené tous ces bouquins. D'ailleurs, en 45, il n'y en avait plus beaucoup qui étaient valables, parce qu'il y avait Renaud, Jean, il y avait des tas de types qui, entre-temps, avaient été ou exclus, ou démissionnaires. Ou... Bon, il y en avait quelques-uns qui restaient valables. Et je prends tous ces bouquins, il y avait une petite bibliothèque. Je prends tout ça dans des valises, et je rentre tranquillement, et je cache ça au 63 rue Nau, NAU, près de la plaine, dans un entresol. Qui appartenait avant à mon grand-père. Je l'ai caché, j'ai rien dit à personne. Je n'ai pas dit à mes parents, surtout parce que les responsables de ce lieu auraient été mon père et ma mère. Si je leur avais dit, ils m'auraient traité de tout, ils m'auraient dit, tu es fou, tu nous mets en danger, etc. Bon. Et puis après, je m'attendais à ce qu'on me demande bien d'autres choses, mais moi je me voyais déjà, j'étais un peu romantique peut-être, je me voyais la nuit en train de fourguer des tracts dans les boîtes aux lettres des quartiers. Faire des tas de trucs de ce genre-là. Rien, pas de nouvelles, rien du tout. Puis finalement, aux abords du 14 juillet 42, Roux vient chez moi, rue de Lodi, et me dit, voilà, le parti demande à tous ses adhérents de manifester au mobile le 14 juillet, le soir, à 5 heures. Alors, il faudra qu'on se retrouve là-bas. Il y aura notre troisième copain, je ne me rappelle plus qui c'était d'ailleurs. Et alors, j'y suis allé, effectivement, là-haut. Et là, c'est comme ça que j'ai participé à la manifestation du 14 juillet 42, qui était une manifestation historique, considérable. Je me souviens très bien avoir vu des femmes alsaciennes en grand habit alsacien qui déposaient une gerbe tricolore au pied du monument des mobiles, dont tu sais fort bien d'ailleurs aujourd'hui que c'est un monument colonialiste. Ô combien, sur les conquêtes coloniales, mais enfin peu importe. Quatre sûr, c'est qu'on était donc, je l'ai dit, des milliers. Il y avait une atmosphère de tension parce que le bruit courait dans la foule que des miliciens et des gardes mobiles des GMR étaient retranchés dans la faculté, puisqu'il y avait la faculté de droit, je crois, là, qui était aux allées de Meillan, qu'ils étaient retranchés et qu'ils attendaient qu'on soit réunis pour sortir et puis pour nous matraquer et tout. Il y avait une certaine tension. Et puis alors, finalement, tout ça, ça s'est mis en mouvement. Il n'y a pas eu de discours, que j'entende tout au moins. Il y a eu un flot extraordinaire de gens qui descendaient la Canebière jusqu'au moment où, donc, il y a eu des coups de feu, il y a eu reflux en désordre. Et là, je suis remonté chez moi, comme beaucoup de gens. Enfin, c'était la fin de la... C'est tous les contacts, parce qu'après ça, c'est donc juillet, et le 4 novembre qui suit... Je suis mobilisé au chantier de jeunesse à la presqu'île de Gien, au camp numéro 4. Et là, j'ai plus de contact avec... Bon, alors, après la guerre, moi, j'étais membre du parti, j'étais cadre, j'étais secrétaire parlementaire, etc. Et je me suis adressé un jour à Biou, à François Biou. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai adhéré au parti à telle époque, etc. Parce qu'on me disait, tu as été au parti, tu es homologué au parti qu'à partir de fin 43, enfin, Arboise. Je lui ai dit, non, moi, j'ai demandé mon adhésion depuis... Alors, j'ai expliqué tout le topo. Puis quand j'ai eu fini, Biou a souri. Il m'a dit, ben, écoute, pour Alphonse Roux, avec qui tu as été en contact, tu te renseignes. Parce qu'entre-temps, il avait été... Ah oui, pourquoi je ne l'ai plus vu? Sa femme était venue dire qu'il avait été arrêté, qu'il était emprisonné. Il me dit, tu te renseignes auprès du camarade Roger Giana, qui était membre du comité fédéral de Saint-Marcel. Il était à Saint-Marcel. Et quand j'ai vu Giana, il m'a dit, il ne me parle pas de ce bonhomme-là. Il a été effectivement au parti, il a été arrêté, donc en 42 effectivement, il a été arrêté pour une affaire de mœurs. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui les pédophiles ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Alors que bon, sa femme avait dit que c'était pour la résistance, qu'il avait volé des pommes de terre à la gare, etc. Mais tout ça, c'était faux. Alors voilà, c'était... Alors comment fonctionnait le parti ici? Je ne le sais pas trop. Il faudrait lire le livre de Posado. Mais à mon avis, il fonctionnait de manière très resserrée. Il y a eu, à ma connaissance, hein, je ne l'ai pas su quand j'étais encore membre du PCF, mais je l'ai su que par la suite, il y a eu des gros problèmes ici en 39, 40, 41. Les problèmes de désaccord, naturellement, sur le pacte soviéto-allemand, mais ça, c'est autre chose, dans notre sujet. Et je comprends très bien, d'ailleurs, qu'on puisse discuter là-dessus, hein, qu'on n'ait pas la même opinion que la mienne. Mais il y a eu des gros problèmes au début, comme il y a eu les problèmes de Guingouin dans Haute-Vienne. Il y a eu des tas de gens qui ont constitué, si tu veux, un groupement patriotique de communistes, mais des communistes qui ont tous été écartés.
Allô, allô, Goebbels, quelle nouvelle, absorbée dans mes intuitions. Au bout du fil, Adolphe t'appelle, donne-moi toutes les informations. Tout va très bien, mon vénéré Führer, tout va très bien. Pourtant il y a un tout petit repère, on déplore un tout petit rien. C'est ce pauvre Mussolini qui a perdu l'Empire d'Italie. Depuis Cromwell a quitté la Libye, mais à part ça, tout va très bien. Allô, allô, Goebbels, quelle nouvelle, mon pauvre Rommel écrabouillé. Explique-moi, mon cher Goebbels, dis-moi tout ce qui s'est passé. Cela n'est rien, on vénérait Führer, on croyait tenir Alexandrie. Puis son était tout près d'entrer au Caire, les Anglais entrent en Tunisie. Et les Français et les Alliés nous attaquent de l'autre côté. Mais à part ça, on vénérait Führer, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Goebbels, quelle nouvelle, que fait donc mon Afrika Corse? Explique-moi, Goebbels fidèle, serions-nous donc frappés à mort? Cela n'est rien, mon vénéré Führer, c'est que nous manquons un peu soldats. Étant battus en Russie tout l'hiver, nos effectifs ne sont plus gras. Il y a Paulus, pris par les Russes, et les Caucases n'est plus cocasse. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Goebbels, quelle nouvelle, nos armées seraient donc battues? Explique-moi, car je chancelle, serions-nous donc vraiment foutus? Eh bien voilà, mon vénéré Führer, les Anglais qui bombardent Berlin préparent déjà un second front sur air sur le continent européen. Et puis Vlac de Gaulle et Chirot ont vu Roosevelt et Churchill. A perdu l'Empire d'Italie, pour lui et Nini c'est fini. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va très bien. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va très bien.
Entre autres conséquences, l'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller récupérer nos côtes méditerranéennes.
Actualité française sur l'occupation de la zone libre par l'armée allemande le 8 novembre 1942.
À ce moment-là, moi j'étais mobilisé, j'avais déjà été appelé au camp des jeunes de hier, sur la presqu'île de Gien. Là j'ai réussi à obtenir, dès que j'ai su que les Allemands arrivaient à Marseille, j'ai obtenu une permission, je n'ai pas donné de motif, si je crois que je me suis fait envoyer un télégramme par ma mère, m'étant mère malade, venir d'urgence, mère très malade. J'ai donc eu une permission, et je suis arrivé là à Marseille, au moment où ma mère arrivait aussi, et où elle disait à ma femme, voilà, nous allons remonter en train, toi tu fais la muette, tu parles pas, s'il y a un contrôle. Il y avait des contrôles hein, dans les trains. S'il y a un contrôle, tu me laisses parler, tu me laisses m'organiser. Et c'est moi qui tiens le bébé dans mes bras. Ma mère, elle avait tout calculé. Et finalement, le voyage s'est fort bien passé, sans aucun contrôle ni rien du tout. Et ma femme a été cachée pendant un moment dans ma famille. Puis peu de temps après, comme il y avait du danger qui s'accentuait, il avait fallu que ses propres frères et sœurs partent en Suisse en plein décembre 1942. Comme il y avait du danger parce qu'on était informé, mon père était informé par le garde municipal qui recevait la visite de la Gestapo, qui faisait le recensement de toutes les familles juives. Il y en avait une trentaine de familles réfugiées à ce moment-là. On les avait prévenus pour qu'ils... Ma mère a dit, ma petite, tu ne peux pas rester là, c'est pas possible parce qu'ils vont venir, s'ils viennent, ils vont t'attraper. Et alors, ma mère était en contact avec une organisation de résistance qui allait ensuite entrer dans les mouvements, les murs, les mouvements unis de la résistance, à travers combat ou je sais pas quoi, le mouvement de résistance. Et elle était en contact avec le courrier du témoignage chrétien, des dames, des bourgeoises, mais qui n'étaient pas inefficaces, hein, qui étaient tout à fait respectables. Et alors, ces femmes-là ont commencé à cacher ma femme dans une ferme qui s'appelait la ferme Deschaumes. Et puis, c'était une ferme qui était bien organisée du point de vue de la résistance, avec des renseignements. Et là, la mère de mes enfants a échappé, à 24 heures près, à l'arrivée des Allemands dans cette ferme pour perquisitionner, parce qu'il y avait des dénonciations. C'était une situation très difficile à ce moment-là.
L'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très lents, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien.
J'ai fait mes 8 mois de chantier de jeunesse, normalement, comme tous les hommes de ma classe. Et le 15 juin 1943, j'ai été mis dans un camion à Offier, dans le Jura, avec tous mes camarades. Et on nous a emmenés à côté de Lyon, à Satonnet-les-Rieux. Et là, on nous a mis dans un camp, encerclés par les GMR, par les gendarmes. Et on nous a dit, on nous a remis des papiers de certificat de libération des chantiers de jeunesse. Mais immédiatement derrière, on nous a mis des papiers de mobilisation au titre du STO. en raison de notre âge. Alors j'étais dans le camp avec un copain qui s'appelait Pailly, qui était au chantier de jeunesse avec moi, mais qui était père de famille comme moi, et un paysan jurassien, et on faisait une sale gueule. Sachant parler allemand, moi j'ai cru habile d'aller trouver le major Himmel qui dirigeait tout le camp et de lui dire, voilà, moi écoutez, j'ai un enfant et demi, je vais en avoir un qui va naître bientôt et je vous demande à ne pas partir. Il s'est foutu de ma gueule, il m'a dit d'abord, monsieur, je parle français aussi bien que vous. Tac. Et il m'a dit, vous apprendrez que sur le front de l'Est, contre le bolchevisme, il y a des pères de 6 et 7 enfants allemands qui font le sacrifice de leur vie pour protéger l'Europe, etc. Alors, vous pouvez disposer. J'ai donc disposé à partir de ce moment-là. J'ai réussi à passer un coup de téléphone de l'intérieur du camp à mon père, à Poligny, pour lui dire, tu sais, j'ai donné une fausse identité, mais il a compris que c'était moi. Attends-toi à me voir rapidement parce que je ne veux pas partir. Mais on ne savait pas comment on allait s'évader encore avec Epailly. Et on nous a embarqués, on nous a fait marcher sur les juste en rang serré depuis le camp, encadré par les gendarmes, jusqu'à la gare de Satonnet-les-Rieux. Et là, on nous a rangés à côté d'un train dont, je dois dire, parce que ça explique la facilité de l'évasion ensuite, dont qui était un train à compartiment. Tu vois, ça pas avec un couloir qui fait tous les compartiments, mais compartiment par compartiment. C'est-à-dire que tu avais une porte par compartiment et tu avais 10 compartiments par wagon. Alors là, ils nous ont fait un salut aux couleurs, il a fallu chanter la Marseillaise. Enfin, on n'était pas très, très... On savait pas encore comment on allait s'en démerder avec Epailly. Tous les deux, on est montés et on était 8 dans le compartiment. Et on a dit aux 6 autres, on leur a dit, vous savez, nous, on va pas aller jusqu'au bout. Moi, sur ma feuille de destination, il y avait Wiener Neustadt, Luftwerke, c'est-à-dire Nouveau-Vienne, usine d'aviation. Alors, on a attendu. Et puis, quand on est arrivé à la sortie de Saint-Amour, le train monté, donc sur Besançon, sur l'Alsace pour passer en Allemagne, quand on est arrivé là-bas, à la sortie de Saint-Amour, que je ne dise pas de bêtises, il y a une rampe, il y a une bifurcation qui tourne sur Chalon-sur-Saône. Dans une rampe, ça monte un peu, donc il ralentit et il tourne. Il y a un tournant. Alors là, on a choisi de sauter du train. Et Epailly m'a dit, saute le premier, parce que peut-être, enfin, il était plus costaud, plus paysan que moi et tout. Il était plus courageux, si tu veux. Tu vas sauter le premier. J'ai sauté. Bon, il roulait à 60 ou 70, hein. Il n'allait pas très, très vite. Mais enfin, j'ai sauté. J'ai fait du roulé-boulé. J'étais plus souple que maintenant. J'ai fait du roulé-boulé en tombant dans un caniveau où il y avait de l'eau. L'eau un peu amortie. Et j'avais un vague sac avec quelques provisions. On nous avait tout retiré, hein, nos papiers. On n'avait plus de papiers, rien du tout. Et Epailly, 15 mètres plus loin, il a sauté de la même façon. On est parti en courant, à toute vitesse, dans une forêt, à 11h du soir, où on voyait rien du tout. On a couru. À un moment, on n'en pouvait plus, on s'est arrêté pour reprendre nos souffles. Et puis après, on a marché un petit moment, et finalement, on a débouché sur un chemin. Et comme ça, au pif, on s'est orienté comme on a pu. On a réussi à retrouver la route nationale. On a marché toute la nuit, et au petit matin, on est arrivé à l'entrée de l'Anse-le-Saunier. Et on a été pris en charge sur une charrette par des paysans qui allaient à la foire. Mais nous, on ne disait pas qu'on était rien du tout. Et le paysan devait bien se douter qu'il y avait quelque chose de pas très normal là-dessous. Et puis, à Lons-le-Saunier, alors je connaissais des gens. Je connaissais notamment une personne dont le fils était un camarade de classe qui tenait un bar-restaurant. Et elle nous a dit, vous allez rester ici toute la journée. Et puis, ce soir, je vous donnerai des vélos. Et la deuxième nuit, nous sommes partis en bicyclette. 27 kilomètres, c'était pas terrible. Et nous sommes arrivés à Poligny, dans le Jura. Ça, c'était, donc on s'était évadé. À la suite de ça, la police de Marseille est allée perquisitionner chez ma pauvre grand-mère ici, rue de Lodi, pour essayer de me trouver. Il y avait déjà eu des recherches de ma femme au même endroit, mais alors là, elle, pour sa qualité de race, d'ethnie juive, et puis les gendarmes de Poligny sont venus trouver mon père, ils avaient tous leurs gosses qui étaient au collège, ils ont dit, écoutez, monsieur le principal, nous sommes chargés de l'arrêter. Alors mon père dit, mais il est en Allemagne, il a dit, non, monsieur le principal, peu importe, nous ne voulons pas savoir où il est. En Allemagne ou ailleurs, on vient simplement vous dire que nous avons un mandat d'arrestation contre lui. Alors, si vous avez l'occasion, faites-lui savoir qu'il ne se montre pas. Voilà. Et alors, quelques jours après, ça c'était donc dans la nuit du 15 au 16 juin, je me suis évadé, le 17 juin, donc disons vers le 20, 22, 25 juin, peut-être je ne me rappelle plus exactement, ma mère a réussi à avoir le contact donc avec la résistance, et je suis monté, on est venu me chercher, c'est ça, oui, on est venu, un garde qui s'appelait Gamelon est venu me chercher à 5 heures du matin, et on est monté à pied par la forêt, on a fait une sacrée bonne marche, jusque à mon camp du Bois des Moidons, où j'ai vécu là alors jusqu'en décembre.
Il ne s'endormit que vers la fin de la nuit et son premier sommeil dans le maquis fut peuplé de songes guerriers. Réveillé tard dans la matinée, il se retrouva solitaire dans le foin. Ses nouveaux camarades, sans doute partis pour quelque expédition, l'avaient recouvert avant de le quitter de 5 ou 6 couvertures. Il revint près du feu dans la cuisine et but un peu de café. Deux camarades restés pour garder les armes lui donnèrent quelques conseils. Puis l'un d'eux partit avec lui chercher des armes camouflées dans un petit ravin creusé au plus profond d'un épais taillis. Ils rapportèrent des grenades, un sac de balles et une mitraillette démontée, le tout destiné à la nouvelle recrue. Le camarade lui monta l'arme avec force explication. Aussitôt, le montage terminé, ils ne perdirent pas de temps et partirent l'essayer dans un endroit désert d'où les détonations ne risquaient pas d'alerter les endroits habités. Accroché à un gros hêtre, un portrait du vieux capitulaire servait de cible. Ces photographies fleurissaient encore à la plupart des devantures des honorables commerçants. Un groupe du maquis survenu à l'improviste dans une localité pouvait en collectionner un certain nombre. Chopin ayant appuyé sur la gâchette de sa mitraillette, toute une rafale de balles crépita et sans doute par un hasard heureux, alla pulvériser les étoiles du képi. « Tu feras un bon maquisard, lui dit René, l'homme des bois étonné. Mais il vaut mieux tirer coup par coup. Nous n'avons malheureusement pas de balles à volonté. » Le nouveau bandit armé mit orgueilleusement sa mitraillette en bandoulière. On ne possédait pas beaucoup d'armes dans le maquis à cette époque héroïque. Une pauvre petite mitraillette Sten faisait figure d'engin redoutable.
Ton père, bien que pacifiste et contre la guerre, avait quand même un rôle non négligeable dans la résistance passive, dans ses fonctions de proviseur. Alors, tu peux un peu m'expliquer quel rôle il avait fait, qu'il jouait.
Ben oui, il a eu un rôle important dans la mesure où on demandait à cette époque-là, c'était vraiment dégueulasse ce régime de Vichy, on leur demandait de dénoncer les professeurs juifs ou communistes ou francs-maçons. Or, il n'en avait pas de juifs, il n'en avait pas de communistes non plus. Mais par contre, il avait mon propre prof de lettres en première et en seconde et en première, et Monsieur Roland, Jean Roland, était franc-maçon. On l'ignorait totalement, hein. Mais mon père le savait. Parce que mon père était toujours un peu proche, il n'avait jamais été franc-maçon, mais il était en bonne relation avec des gens qui appartenaient à la franc-maçonnerie. Et alors, évidemment, il n'a pas dénoncé. Et, quelques temps après, il n'avait pas le droit de créer une classe de terminale, comme on dit aujourd'hui, de mathématiques élémentaires, s'il n'avait pas plus de 6, au moins 6 élèves. Il n'en avait que 5. Et il est passé outre. Et immédiatement, il a eu un poil, c'est-à-dire une note de... un blâme qui a été envoyé par le ministre de l'Éducation nationale pour cette indiscipline. Mais l'inspecteur d'académie est venu le voir et lui a dit, mais vous savez, monsieur le principal, votre histoire de classe de 5 ou 6 élèves, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on l'a découvert que monsieur Roland est franc-maçon, il était sur une liste de la franc-maçonnerie, il est révoqué et on vous reproche, et mon père savait déjà qu'il avait été révoqué, vous avez été dénoncé comme ayant donné le nom et l'adresse de monsieur Roland à des parents d'élèves dont les enfants étaient en retard dans leurs études pour qu'il leur donne des leçons particulières. ce qui était rigoureusement vrai. Alors mon père naturellement a dit non, non, jamais de la vie, j'ai jamais fait ça, tu parles, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de nier quoi. Hein. Et voilà, il a été emmerdé pour ça sévèrement. Mais ensuite après, en 43-44, quand les choses ont commencé à se corser, tout ça, les chantiers de jeunesse avaient utilisé tout le préau de gymnastique du collège pour déposer du matériel, c'est-à-dire des lits de camp, des sacs, des couvertures, tout ça. Et les Allemands sont venus, la Gestapo est venue, tout ça, ils voulaient récupérer tout ça. Et mon père, il a fait comme il a pu, mais il a réussi à échapper à tout ça, à échapper, non pas, il le poursuivait pas lui individuellement, mais à les empêcher d'enlever tout ce matériel. Il fait un tas de trucs, il a fait ce que tu as appelé, je crois que l'adjectif convient parfaitement, de la résistance passive. Tout à fait. Tout à fait. Alors toutes ces choses-là, tout le dossier de mon père, il est au musée de la Résistance, parce que ça témoigne des emmerdements qu'on a fait à l'éducation nationale. Alors j'ajoute que à partir de fin 42, je pense, la rentrée d'octobre 42, oui c'est ça, il y a une fille qui venait d'Alsace, qui s'appelait Mademoiselle Heimann, qui l'a contacté, sans doute parce que dans les milieux juifs, on savait que moi j'étais avec la fille Feigenbaum, c'était ma femme, hein, c'était la mère de mon enfant. Alors, ils sont venus, ils lui ont dit, voilà, monsieur le principal, on voudrait que vous preniez des enfants sous de fausses identités. Et effectivement, jusqu'à la libération, ils ont mis dans l'internat les deux petits frères Salomon de Paris, qu'on a appelés les frères sauvagers. On a changé leur identité. Ils ont pris un nommé qu'on a appelé Lang, un nommé Hans, le nom m'échappe maintenant, enfin un nom typiquement allemand, et puis le petit Kurt Lévy, qui était également allemand, et qu'on a appelé Claude Lafont, qui était d'ailleurs le concurrent de ma frangine pour le prix d'excellence, tout ça, tu vois. Et on les a gardés, mes parents les ont gardés. Mais il n'y avait pas que le collège de Poligny qui a fait ça. Il y en a eu au collège de Salins, et il y en a eu au lycée Lons-le-Saunier. Malheureusement, au lycée de Lons-le-Saunier, ça s'est mal passé, parce qu'ils ont été dénoncés. C'était le surveillant général, M. Mermet, qui était socialiste d'ailleurs. Le père Mermet qui avait organisé tout ça, le père Mermet, il a été déporté. Il est revenu, heureusement, de déportation. Par contre, le proviseur, qui était un collabo, il a été arrêté et déporté, et il n'est pas revenu de déportation, parce qu'ils avaient donc caché des enfants juifs.
Que voulez-vous ? La porte était gardée.
Que voulez-vous ? Nous étions enfermés.
Que voulez-vous ? La rue était barrée.
Que voulez-vous ? La ville était matée.
Que voulez-vous ? Elle était affamée.
Que voulez-vous ? Nous étions désarmés.
Que voulez-vous ? La nuit était tombée.
Que voulez-vous ? Nous nous sommes aimés.
C'était l'histoire continue et permanente, une émission animée par Eric Lebreux sur les zones de Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.